Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
L'affiche, ça consiste à tuer l'anecdote et à aboutir à la synthèse.
Raymond Savignac, qu'on réentendra tout à l'heure, c'était dans les années 90, sur les ondes de France Culture. Pour lui, notre invité, non seulement l'affiche est anti-anecdotique, mais elle est aussi démocratique. Après un voyage à Prague, à la fin des années 70, il a découvert de magnifiques affiches dans la rue et pris conscience qu'il voulait être, je cite, « un peintre de la rue ». Il aime cette accessibilité du message et le bruit voluptueux de la machine à imprimerie. Son activité d'affichiste, elle a pu croiser vos yeux, notamment lorsque vous regardez les affiches des rencontres photographiques d'Arles et ses variations sur les animaux, entre autres. Ou encore lorsque vous voyez les affiches de la Friche Belle de Mai et sa fabrique d'imaginaire. Ça lui va bien, la fabrique d'imaginaire. Il le fait auprès de ses élèves à l'École supérieure d'art graphique de Penningen, dans 70 expositions personnelles d'affiches quand même à travers la France et le monde. Oui, on le connaît en Pologne, en Finlande, en Tchécoslovaquie. On le conserve aussi à Paris, à Tokyo ou encore à Poznan. Michel Bouvet, bonsoir.
Bonsoir. 1940.
1940. Elle est plusieurs. Cela coule de source, me direz-vous, s'agissant d'une mathématicienne. Mais sa pluralité a en outre quelque chose d'étrange et pénétrant. Là encore, cela sonne évident, non seulement quand on sait que son objet d'étude fétiche est l'énigmatique topologie symplétique, mais aussi quand on sait qu'elle est écrivaine et membre de l'Oulipo. Et puis, elle est également historienne, au sens étymologique, témoin, qui fouille en particulier les ténèbres des guerres mondiales et de leur entre-deux, les années 20 et 30, quand poings levés et bras tendus s'affrontaient dans nos rues. Et la voici qui, tout à la fois romancière, historienne et méthodique, donc, publie chez Gallimard Mademoiselle As, le récit choral et tressé de quelques heures dans la vie de 15 femmes, toutes nommées Mademoiselle As. Il y a la Valentine, la vendeuse, Aline, la journaliste, Suzanne, la biologiste, ou encore Catherine, Péroline ou Léopoldine, l'ouvrière fraiseuse, des femmes des classes ouvrières ou populaires, des femmes oubliées, ou plutôt omises, comme elle l'écrit, par la grande histoire, virile et guerrière, des femmes dont elle saisit le destin entre le 6 février 34 et le 21 août 1941, des femmes qu'à la manière d'un détective oulipien ou d'un Modiano doué d'une conscience politique, elle ressuscite après avoir aperçu leur ombre parmi les 76 000 noms du mémorial de la Shoah. Bonsoir Michel Audin.
Bonsoir. Une première question. Vous avez rigolé, Michel Audin, pendant ce portrait sur le Modiano qui aurait une conscience politique. Je le signale aux
auditeurs. Il y a auditeurs. Du Dora Brouder, mais il y a aussi une forme d'engagement.
C'est ça. Il faut que vous ayez l'image aussi, parfois. Justement, parlons-en avec la fête du graphisme. C'est une manifestation toute jeune, on peut le dire, parce que c'est la troisième édition seulement, ça n'existait pas. Paris, elle a évidemment sa semaine de la mode, elle a ses rencontres de la photographie, ses rencontres de l'art contemporain avec la FIAC, il n'y avait rien autour du graphisme. Vous êtes à l'origine de cette manifestation, vous allez donc accompagner la première, maintenant la troisième, avec ce mot d'ordre qui est le graphisme démocratique. Qu'est-ce que vous mettez derrière, Michel Bouvet ?
Bah, disons qu'on a constaté que le graphisme est une discipline que les gens connaissent mal, mais au fond qui est traitée par beaucoup de graphistes de manière, on va dire, un peu... La plupart des graphistes, en fait, travaillent dans certains domaines, mais pas suffisamment, en fait, en relation avec la société. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de montrer que le graphisme est présent absolument partout. On est, en fait, à transmettre la science, l'éducation, la culture, l'économie, la politique, etc. Et que la plupart des gens, en fait, ne le savent pas. Et de montrer, justement, justement toutes les facettes du graphisme, c'était une manière de dire... Le graphisme démocratique, c'est aussi dire nous devons prendre en compte aussi notre relation à la société et pas seulement être finalement au service des commandes que peuvent nous passer soit l'État, les collectivités ou les entreprises, mais aussi être au service de la population.
Michel Audin, le sujet de votre roman, de ce récit, Mademoiselle Haas, est aussi démocratique, peut-être, par opposition à aristocratique, tout du moins, puisqu'il s'agit de portraits de femmes des classes populaires et ouvrières, des femmes omises, hein, je le disais, et c'est vous qui l'écrivez par l'histoire. Est-ce que vous pourriez expliciter, déplier un peu ce désir qui est le vôtre dans ce livre de faire échapper à l'oubli, mais aussi peut-être, comme les militants communistes, mais aussi fascistes qui défilent, et peut-être aussi comme Léopoldine, une héroïne récurrente de ce livre, votre désir de transformer le monde?
Bon, transformer le monde, je ne sais pas, c'est plutôt un désir de décrire le monde, une partie du monde qu'on ne décrit pas. Il y a deux choses importantes qu'on ne décrit pas, je trouve, c'est le travail. On ne représente jamais des gens qui travaillent, d'aucune façon. Et puis on oublie souvent les femmes. Donc l'idée, c'était de montrer des gens au travail et puis des femmes. Enfin, il n'y a pas que des femmes dans le livre, bien sûr. Les personnages principaux sont des femmes, mais elles vivent dans un monde qui est très souvent très masculin, en fait. Oui, donc montrer le travail dans les classes populaires, montrer aussi la ville, Paris, dans les années 30, qui était une ville un peu différente de la ville d'aujourd'hui. Voilà, des choses qui sont un peu oubliées et qui appartiennent à notre histoire et à notre présent aussi.
Michel Bouvet, pour vous, être affichiste, c'est essayer de comprendre le monde, de pouvoir le restituer. Donc, vous êtes dans une démarche qui est proche aussi de celle de Michel Audin. Et vous avez, au-delà de la description, vous avez aussi, je crois, une envie presque contestataire dans le travail d'affichiste. Il y a l'idée de, vous disiez, de transmettre des messages dans la rue pour rendre le monde un peu meilleur. L'affichiste et le graphiste, lui aussi, il peut transformer le monde.
Il peut y contribuer un peu, en tout cas. Enfin, l'intérêt de l'affiche, je trouve, c'est que c'est d'ailleurs, même les publicitaires le disent, l'affiche reste incontournable. Et donc, inévitablement, c'est un support que toute la population peut voir, peut rencontrer. Et donc, la responsabilité qu'on a quand on est affichiste, évidemment, c'est d'essayer de, à la fois, délivrer des messages qui soient très clairs et très forts, et puis qui éduque le regard, mais aussi c'est donner envie de connaître, c'est envie de changer évidemment les choses, etc. Et le message, le fond, la forme et l'esthétique sont évidemment indissociables. Et d'ailleurs, vous parliez de Savignac, Raymond Savignac, le grand affichiste français, qui a bercé d'ailleurs dans les années 60, quand j'étais enfant, mon univers visuel. Il a toujours dit ça, c'est-à-dire que l'affiche, en fait, c'est un coup de poing dans la figure qu'il faut véritablement donner en un quart de seconde. Parce qu'en un quart de seconde, les gens vous disent si c'est bon ou mauvais. Et croyez-moi, quand c'est pas bon, c'est pas bon.
On le réécoutera tout à l'heure, mais il y a une petite nuance qui est intéressante. C'est que dans le travail d'affichiste, par rapport au travail, on va dire, d'artiste, parce que je crois que ce qui vous intéresse, c'est que c'est émancipé de l'art pour l'art, on va dire, qui peut ouvrir des brèches, transformer le monde aussi, mais pas avec le même accès, pas avec le même impact.
Bah, disons, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi, en plus, j'ai fait des études à l'école des Beaux-Arts à Paris en peinture, donc j'étais pas du tout destiné à devenir affichiste. Vous l'avez dit, Prague a changé sans doute ma vision des choses. L'école polonaise de l'affiche m'a donné aussi envie. Les Américains, les psychédéliques, etc., m'ont donné envie vraiment de faire du graphisme et d'être proche des gens. Alors, moi, d'abord, j'étais proche de la musique. Ensuite, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses, évidemment. Et l'affiche, en fait, c'est un support extraordinaire parce que ça permet de parler. Vous savez, quand vous êtes quand une affiche est dans le métro ou sur une colonne Maurice à Paris, comme c'est le cas avec les théâtres avec qui je travaille, les Gémeaux, Asso, La Pépinière à Paris, c'est des centaines de milliers, voire des millions de gens qui voient votre travail. Alors, ils vous connaissent pas, ce qui n'a strictement aucune importance, mais ça veut dire qu'en fait, on transmet un message qui, lui, effectivement, l'idée, c'est que ça reste dans les mémoires d'une part, et puis que ça contribue à la curiosité, que ça contribue à, évidemment, à amener les gens à réfléchir autrement. Alors, évidemment, c'est une petite pierre à l'édifice, hein, sans doute, mais c'est effectivement c'est un acte particulier. Être affichiste, c'est, je le dis toujours un peu avec discrétion, mais c'est différent d'être graphiste. Graphiste, c'est, on agit sur beaucoup de choses. L'affiche, encore une fois, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Ce qui est singulier, ce que disait Savignac, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est 45 secondes qui font que ça marche ou ça marche pas. Et enfin, En fait, le processus de création est passionnant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on montre aussi à la fête du graphisme, c'est comment des gens, à travers la planète, en fait, développent ce type de langage, qui est un langage très singulier, parce que, effectivement, très populaire.
Michel Audin, on voit apparaître, au détour d'une phrase, dans votre livre, Mademoiselle Haas, qui se situe donc entre le 6 février 1934 et le 21 août 1941, une affiche. Ça fait partie des matériaux qui ont nourri votre enquête. Mais vous, pour transmettre à la fois le résultat de cette plongée dans cette période de l'histoire et peut-être pour transmettre votre message à travers les vies de ces mademoiselles As que vous avez à la fois fait sortir de l'oubli mais aussi réinventer, réimaginer à votre façon, vous avez choisi d'écrire 19 récits littéraires différents, de nature différente, puisqu'il y a à la fois du roman, ça peut prendre la forme d'un interrogatoire, d'une lettre, d'un compte-rendu journalistique. C'est une sorte de tâche fractionnée, peut-être dangereuse, comme celle de l'ouvrière Léopoldine à laquelle vous vous êtes prêtée. Mais alors, est-ce que c'était par plaisir de l'hommage, on pense à Joyce et son Ulysse, à Queneau, à Pérec, que vous citez d'ailleurs à la fin de l'ouvrage parmi les livres qui vous ont nourri. Est-ce que c'était donc ce plaisir de l'hommage, mais aussi une nécessité de choisir des formes comme ça différentes?
Oui, toutes les femmes sont différentes. Le travail qu'elles font est différent. Les périodes... Bon, je vais discuter les périodes après, disons, sont aussi un petit peu différentes. Et en effet, avoir des formes différentes, ça pouvait être intéressant. Je voulais aussi montrer comment reconstituer la vérité, l'infraordinaire, comme disait Pérec, de cette époque. Je ne peux pas me mettre dans la rue, square Louvois, et puis regarder ce qui se passe et savoir ce qui se passait en 1938. Comment je peux faire ça? J'ai que la littérature. Est-ce que les gens ont écrit? Je peux me servir que de ça.
Vous avez le bruit de l'œuf dur sur le comptoir des temps, hein, cher à Prévert.
C'est pourquoi j'ai fait pas mal appel à Prévert. Ça, c'est complètement explicite. Et puis à Joyce aussi et à Pérec aussi. Donc j'ai fait. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'avoir lu Joyce et Pérec pour lire le livre, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé pas mal la littérature justement pour décrire le monde. La littérature d'autres époques pour décrire le monde. Donc ça explique qu'il y ait des formes un peu différentes. Bon, par exemple, il y a une des histoires qui décrit la journée d'une ouvrière métallurgiste. C'est très difficile de décrire un travail à la chaîne, un travail fractionné comme ça. Si vous pensez au film de Chaplin, Les temps modernes, on regarde et puis il y a un gag. On peut pas suivre ça pendant 8 heures. Donc là, il n'y a pas de gag. Là, elle continue à travailler. Et je me suis demandé comment décrire ça. Et donc j'ai fait appel à la littérature. En l'occurrence, là, c'était La condition ouvrière de Simone Veil. Et Simone Veil, qui est allée travailler dans cette usine que je décris, au moment où elle décrit ce qu'elle fait, elle se met elle-même à décrire ce travail en utilisant des verbes au mode infinitif. Travailler, ouvrir, cueillir, enfin bon. Et bon, voilà, donc là, c'était forcément, j'étais obligée de faire ça. Quoi. C'est une façon de décrire un travail répétitif, les verbes à l'infinitif, le côté fractionné, impersonnel, etc. Donc la forme n'est pas gratuite. La forme et le fond, c'est la même chose. Bon, c'est un vieux débat, évidemment. C'est moi.
Si on part d'une idée par le graphisme, c'est très différent que si on part par le texte et on évite le côté illustratif et puis ça prend beaucoup plus de force. Et plus je vais, plus je suis attaché à la force des lignes, au pouvoir des lignes, je suis toujours envoûté par ça. Picasso disait, dès que tu tires un trait, tu n'es plus libre. Il a raison, je ne suis pas libre.
C'est lui, donc le grand affichiste français Raymond Savignac, 1994, sur France Culture, bien sûr. Et on le convoque ici avec vous, Michel Bouvet, autour de cette fête du graphisme, pour creuser un petit peu plus ce rapport de l'affichiste au trait et, on va dire, au renouvellement de l'imaginaire. Parce que vous avez choisi de présenter, il y a trois expositions qui sont, donc, vous êtes co-commissaire. Et donc, vous avez choisi de présenter notamment cette section qui est sur les utopies. Utopie et réalité, avec les graphistes affichistes russes, français, allemands, néerlandais, polonais. Et je ne me lance pas dans tous les noms, vous irez voir. Et c'est vrai que, qu'est-ce qui vous a marqué chez eux, justement, c'était ça, c'était cette formulation, on va dire... par le graphisme d'abord plutôt que par l'idée, et donc du coup de ce surgissement de ces utopies visibles. C'est comme ça que vous les appelez.
Oui, en fait, avec Blanche Almeras, qui a travaillé avec moi sur le montage de ces expéditions et la conception, ce qui nous a intéressé, en fait, c'était de dire ces gens ont une utopie dans la vie, dans la transformation du monde, la transformation des signes, et les cinq que nous avons choisis après de longs débats, en fait, c'était dire ils ont réussi à transformer leur rêve dans la réalité. Et en fait, les cinq que nous montrons sont à notre sens exemplaires. Et d'après le public qui vient aux expositions, je pense qu'il nous donne assez raison. C'est que ces gens sont absolument installés dans la société dans laquelle ils vivent. Ils ont des commandes, mais ils sont aussi capables de transformer leur rêve dans une réalité qui est peut-être plus proche de l'art parfois, mais en tout cas, ce qui est frappant chez eux, c'est que ils ont réussi à développer en fait un style extrêmement particulier, qui leur est très très personnel, qui est flamboyant en plus, en l'occurrence pour les cinq que nous montrons, et qui sont européens et qui ont justement cette particularité d'être à la fois très proche des préoccupations sociales, politiques, on va dire des artistes, et en même temps qui sont capables de répondre à des commandes qui leur sont faites par des institutions publiques, des entreprises, avec une grande intelligence et une grande cohérence dans l'esprit. Et...
Mais par rapport à ce que disait Raymond Savignac, est-ce que leur force, c'est pas justement d'avoir énormément, on va dire, de penser d'abord libre dans les formes, dans tout le métier de graphiste, plutôt que d'être, on va dire, dans l'affiche tracte ou on va dire la traduction littérale de l'idée, qui a l'air d'être un piège.
Oui, il y a ça. C'est-à-dire, en même temps, Savignac, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs en 1996 et de faire un long interview qui a été filmé d'ailleurs d'une heure et demie. C'est une autre histoire, ça.
Ah bah voyez, on l'avait pas.
Mais c'est une expérience absolument extraordinaire. Je pourrais vous raconter, mais surtout, c'est que Savignac dit en fait l'idée, c'est vraiment la base même de l'affiche et le concept. Donc le message doit être fort. Il doit être très fort. Après. Évidemment, la forme, elle vient renforcer en fait ce système. Et je crois que ce qui est particulier chez les gens que nous montrons, c'est aussi cette capacité à résumer finalement dans des images, ce qui n'est pas si simple en fait, toute leur expérience de la vie. Et c'est vrai que les cinq personnes, en l'occurrence, que nous avons choisies, et notamment le français Xavier Barral, qui est un graphiste devenu l'un des plus grands éditeurs de photographie et d'art au monde, c'est sa culture, c'est sa capacité finalement à comprendre le monde qui a fait qu'il est devenu sans doute ce qu'il est aujourd'hui, comme les autres, comme le jeune Polonais qui a 26 ans, qui a déjà produit 10 livres, et qui fut il y a peu de temps invité au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil, qui va être bientôt à New York, bientôt au Brésil. Simplement pour dire que ces gens sont des exemples. Alors, on les choisit comme exemples et on n'est pas obligé de les considérer comme des exemples. Mais néanmoins, ils nous donnent espoir. C'est-à-dire qu'ils disent l'art, c'est une capacité finalement à transformer le monde. Et nous utilisons le graphisme, en l'occurrence, ou l'affiche, le livre, etc., comme un moyen finalement de communiquer aux autres ce qui est notre passion du monde et notre volonté de partage. Ça, c'est très important. Ce sont des gens qui partagent en permanence.
B égale C, un morceau du groupe Mathématiques Modernes. Alors Michel Audin, on n'est pas dans la typologie symplétique, ni même dans la cosmologie quantique, qui sont certains de vos objets d'étude en qualité de mathématicienne. Mais puisque Michel Bouvet le disait, on fabrique avec sa culture, que ce soit des images ou de la littérature. J'aimerais que vous nous disiez, vous qui dans ce récit, dans ce roman, moi j'aime bien l'appeler roman, Mademoiselle As, que vous publiez chez Gallimard, vous qui introduisez à la fois des fractions, alors il y a des fractions de secondes, il y a le travail fractionné de l'ouvrière Léopoldine dont on parlait, il y a des intersections, il y a des contraintes discrètes, autre adjectif qu'on utilise en mathématiques. Vous nous parliez de cette dimension mathématique de votre récit.
En fait, il y a très peu de mathématiques dans ce récit. Le roman que j'avais écrit avant, 121 jours, est un roman qui parlait de mathématiciens et dans la structure duquel j'avais utilisé pas mal de mathématiques. Et du fait que c'était des mathématiciens dans cette période, l'entre-deux-guerres, il n'y avait pas de femmes et j'avais une certaine frustration. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Et j'avais envie d'écrire un livre avec des femmes. Donc,
Les femmes ou les mathématiques ?
À cette époque, c'était en effet le cas. Donc, après, je connais rien à la cosmologie quantique, je précise pour.
J'ai vu ça dans votre bibliographie scientifique.
Pour les auditeurs physiciens qui écouteraient l'émission.
Il y en a
beaucoup. Donc, oui.
Dans cette volonté d'objectivation de la réalité, moi, j'ai pensé par moment aux gommes de Rob Grillet, en particulier dans le premier chapitre, où on traverse les stations de métro et les couloirs du métro, avec une démarche qui a quelque chose presque de. Alors, à la fois de l'épuisement des lieux à la façon de Pérec, mais aussi peut-être d'une approche mathématique de la réalité.
Je ne sais pas si elle est mathématique. En tout cas, je suis quelqu'un d'assez précis, oui, d'assez sérieux. Alors, en effet, le trajet pour prendre le métro, au métro Jacques-Bonsergent, aller changer à Bastille pour aller à la Concorde, il est
parfaitement... Vous connaissez le nombre de marches, etc.
J'espère que c'était le même à l'époque. c'est très intéressant ce que vous dites sur Rob Grillet, parce que en fait c'est ce qui se passe quand on écrit un livre, on utilise des tas de choses et puis les lecteurs ils voient autre chose. Donc j'avais absolument pas pensé à ça, mais c'est vraiment intéressant.
Mais alors là, vous êtes face à Michel Bouvet, affichiste, graphiste, on le dit, ces métiers où l'on crée en choisissant, en utilisant différents éléments graphiques, et notamment les caractères typographiques. Vous faites un usage singulier des italiques, de la ponctuation, des notes en bas de page, Michel Audin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre travail, sinon de graphiste, peut-être d'ouvrière typographe ?
Ah, ça c'est intéressant, oui. Les notes en bas de page, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très joli. J'aime beaucoup les notes en bas de page. Quand j'écris des livres d'histoire des sciences, il y a plein de notes en bas de page parce que c'est comme ça, c'est la culture de ce milieu, donc je suis très contente.
Pensées en bas de page.
Dans le livre, il y a une seule des histoires dans lesquelles il y a des notes en bas de page et en fait, elles occupent beaucoup de place parce que le texte raconte une partie de l'histoire à la première personne à Paris. Et les notes en bas de page racontent ce qui s'est passé juste avant à la troisième personne à Strasbourg. Et il y a un aller-retour entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Strasbourg. Je me suis amusée avec les notes en bas de page. On peut lire le texte sans les notes en bas de page. On peut lire les notes en bas de page toute seule. Je crois que ça fonctionne. Voilà, c'était un petit jeu comme ça. C'est amusant, oui.
C'est comme sur une affiche, il n'y a pas de sens de lecture. On peut partir du bas, du haut, on peut aller chercher l'information qui nous a attiré, qui nous a attrapé l'œil. Comment est-ce que vous travaillez justement, parce qu'on était sur le métier de typographe de Michel Audin, comment est-ce que vous travaillez la typographie, Michel Bouvet, ce lien entre l'image et le texte, comme le dit justement votre co-commissaire Blanche Almeras pour cette fête du graphisme?
C'est drôle parce que vous parlez des gommes, et moi je pensais à Michel Butor, et un livre qui m'a beaucoup marqué, La Modification, et en fait, je suis sans doute venu aussi à l'affiche et à la typographie, à l'amour des lettres, au fond, sans doute plus par la littérature finalement que par la typographie, puisque comme je vous l'expliquais, je n'ai pas été formé dans une école de graphisme, mais plutôt dans une école d'art. Et c'est vrai que pour moi, le rôle du texte a toujours été très, très, très important. Et en fait, dans une affiche notamment, qui est un rapport texte-image évidemment extrêmement complémentaire, ce qui est intéressant, c'est de se dire au fond, qu'est-ce que les gens vont retenir ? C'est-à-dire qu'ils vont regarder une image, dans la rue notamment, Alors, ils vont retenir un signe visuel. Mais s'ils ne retiennent que le signe visuel, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, ça soit relié à la signification, à, au texte qui l'accompagne. Donc, le titre, la date, le lieu, etc. Et moi, je travaille évidemment beaucoup pour le théâtre, et qui est évidemment un lieu d'expérimentation extraordinaire. Mais néanmoins, le texte, et moi, je le dis souvent à mes étudiants, chaque titre, quel qu'il soit, que ce soit du théâtre ou autre chose, chaque titre a une sonorité. Et cette sonorité, alors évidemment, parler de sonorité en typographie, c'est un peu bizarre, mais en fait, la typographie, c'est l'expression visuelle, en fait, d'un sens, d'un contenu. Et donc, la forme, en fait, concourt à la lisibilité, à la compréhension de ce titre, ou de ce titre, ou de ces mots. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, j'adore travailler sur la typographie, et je l'ai découvert finalement par moi-même, et je l'ai expérimenté, et j'essaye évidemment à chaque fois d'y apporter des choses un peu différentes. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours d'essayer de traduire. Alors, en l'occurrence, quand il s'agit de théâtre notamment, c'est une œuvre, un artiste, évidemment un auteur, et j'ai la chance de travailler pour les plus grands auteurs, donc c'est une expérience formidable. Mais aussi le travail d'un metteur en scène, le travail d'une équipe, etc., ou dans d'autres circonstances, le travail d'autres gens. Et en fait, le texte, pour moi, doit être toujours parfaitement lisible. C'est-à-dire que une bonne affiche, c'est une affiche dont on retient à la fois le titre, évidemment, et l'image. Et si on ne retient que l'un ou l'autre, eh bien, on a perdu.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime les notes en bas de page et les images radiophoniques.
Des réalités infraordinaires et des lettres sonores. C'est à suivre avec nos invités de Michel Audin et Michel Bouvet dans Ping Pong.
Mais tout de suite, on a rendez-vous avec une Zoé Sfez pour le Journal de la Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Bonsoir Zoé.
Zoé, vous consacrez à nouveau votre dossier ce soir à ces innovations annoncées par Médiamétrie, l'Institut de mesure d'audience. En matière de télévision, les habitudes des téléspectateurs seront mesurées à l'avenir de manière générale, partout et tout le temps. Innovation très attendue par les chaînes de télévision alors que les recettes publicitaires sont de plus en plus difficiles à trouver.
Oui, alors Médiamétrie, tout le monde connaît le nom de cet institut, ces chiffres d'audience qui sont publiés tous les matins sur les programmes de télévision de la veille. Alors pendant longtemps, cet institut n'a observé que, entre guillemets, les comportements des téléspectateurs qu'à travers son classique panel, donc de 10 000 personnes, donc c'était des foyers qui étaient munis d'un boîtier et qui enregistraient leur comportement, notamment la télécommande à chaque fois qu'ils zappaient. Puis sont arrivées les box, les fameuses box, et qui ont permis à Médiamétrie de prendre en compte plus de monde, mais les détracteurs de l'Institut, et on sait qu'ils sont nombreux, lui reprochaient toujours de ne pas être assez précis dans ses mesures, ou plutôt de mesurer une espèce de télé de papa avec ses modes de consommation qui sont aujourd'hui de plus en plus, on va dire, de plus en plus mondiaux. Exactement, puisqu'elles ont beaucoup...
Éclaté, allais-je dire, mais délinéarisé, c'est beaucoup plus beau.
Tout à fait, délinéarisé, alors c'est lui qui le dit, et justement, je n'ai pas osé le lire, parce que comme vous l'avez vu, je n'arrive pas à le lire. Depuis 2014, en tout cas...
Délinéarisé.
C'est comme rémunération, c'est toujours très difficile. Depuis 2014, en tout cas, Médiamétrie a tout de même commencé à mesurer ce qu'on appelle la catch-up TV, c'est-à-dire la télé à la demande, les programmes qui sont consommés en replay, et annonce aujourd'hui de mesures révolutionnaires, comme nous l'explique Julien Rosanvallon, directeur du département télévision à Médiamétrie.
La première innovation, c'est la mesure de la télévision de rattrapage, de la mesure de la catch-up. On avait franchi une première étape en 2014 en intégrant l'audience de cette consommation en catch-up, mais de façon globale. Ça veut dire qu'on intégrait l'audience globalement des plateformes de catch-up. La nouveauté depuis le début du mois de janvier, c'est qu'on mesure ces audiences avec un détail, programme par programme, pour l'ensemble des chaînes. Donc ça, c'est une innovation qui était très attendue et très importante, notamment parce qu'aujourd'hui, cette nouvelle forme de consommation progresse très rapidement. C'est une consommation qui a doublé en un an. L'autre grande nouveauté, c'est effectivement d'intégrer la consommation de la télévision en dehors du téléviseur même, sur les ordinateurs, les mobiles et les tablettes. Sur la cible des jeunes, ces nouveaux moyens de consommation sont particulièrement importants. Il y a un rapport quasiment de 1 à 2 entre leur consommation de ces nouveaux écrans par rapport à l'ensemble de la population.
Et du côté des chaînes de télévision, mais aussi des annonceurs, Zoé, l'attente, que dis-je, l'avidité liée à ces innovations est très grande.
Oui, alors du côté des chaînes de télévision, on peut carrément parler même d'espoir. L'espoir, c'est de sauver, ou en tout cas de trouver un autre modèle économique à celui qui existe, en tout cas, et qui est clairement en train de péricliter, puisque vous le savez, les télés se financent grâce à la pub, et la pub se est accordée, en tout cas, en fonction de l'audience. Mais au cours de ces dernières années, il y a eu l'explosion du nombre de chaînes, avec l'arrivée de la TNT. Mécaniquement, ça fait beaucoup moins de recettes, puisque c'est le même gâteau publicitaire qui se partage entre beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Et puis surtout, la télé, on l'a entendu, on la regarde de plus en plus ailleurs, c'est-à-dire sur l'ordinateur, sur les portables. Or, cet ailleurs était jusqu'ici impossible à évaluer. Résultat, la pub hors de la télé en direct ne valait rien, elle coûtait très très peu. On espère donc que face à ces chiffres, les annonceurs acceptent enfin de mieux payer. L'enjeu est donc énorme, explique Julien Rosanvallon.
Ah ben il y a clairement, non mais c'est évident, il y a une attente importante sur l'évolution de ces mesures. Une mesure d'audience, c'est avant tout une monnaie. Et effectivement, le marché publicitaire, pour se développer, il a besoin de cette monnaie. Et donc il était compliqué pour les annonceurs d'investir totalement ces supports sans nécessairement avoir cette monnaie. Et en particulier, il y a un sujet sur lequel cette mesure est très attendue. C'est la mesure de l'audience des écrans publicitaires de la télé en direct sur les écrans internet. Lorsque vous regardez sur votre mobile la télé en direct, il y a des publicités qui sont les mêmes que celles que vous pourriez voir sur l'écran de télévision. Or, aujourd'hui, comme il n'y a pas de mesure spécifique, eh bien, dans les audiences qui sont valorisées et vendues aux annonceurs, eh bien, on ne les prend pas en compte.
Voilà, alors ces nouvelles mesures seront disponibles dès la fin du premier semestre 2016, donc ça va arriver très vite. Quant à la radio, bah écoutez, pas de changement de majeur, puisqu'on n'a pas de boîtier ni de box, si ce n'est que Médiamétrie expérimente. Là aussi, pour le coup, l'expérimentation a l'air assez professeur Folding. Elle va équiper plusieurs milliers de panélistes d'un appareil qu'ils vont porter toute la journée pendant 3 semaines et qui enregistrera tout ce qu'ils regardent et entendent, mais juste par le son, pour en tirer peut-être des conclusions.
On passe au bref. Zoé, il y a péril dans la demeure de l'art contemporain.
Très bien, vous l'avez bien dit.
J'ai bien dit, non ?
Justement, avec le lancement à l'Assemblée nationale d'une mission parlementaire de 15 députés qui doit plancher, je cite, sur le déclin du marché de l'art de la place de Paris face aux maisons de vente aux enchères anglo-saxonnes et asiatiques et à la situation préoccupante du marché de l'art contemporain français qui est très en retrait par rapport au marché américain, britannique ou chinois. La mission doit aussi tenter d'évaluer l'impact qu'ont la très forte augmentation du nombre de musées dans les zones Asie-Pacifique, Amérique latine, Proche et Moyen-Orient sur les conditions de production et les conditions de vente des œuvres d'art. Elle doit rendre ses conclusions d'ici 5 mois.
Disparition de l'écrivain et surtout metteur en scène d'opéra essayiste Jean-Louis Martinotti.
Il avait 70 ans, il avait débuté en tant que journaliste, mais s'était très vite essayé à la mise en scène d'opéra en 75 avec Le Songe d'une nuit d'été de Britten. Ensuite, il en a mis en scène énormément en France, où il faisait beaucoup de baroque, mais aussi à l'étranger, à Londres, Bonn, Berlin. Plusieurs de ses mises en scène sont saluées en France par les grands prix de la critique. Sa dernière mise en scène, en revanche, avait été très sévèrement critiquée. C'était Faust à l'Opéra de Paris en 2011. Opéra Vassy, qu'il avait dirigé dans les années 80, où il avait considérablement agrandi le répertoire contemporain. Il est aussi l'un des premiers à avoir fait appel à des plasticiens pour réaliser des décors. Ça se fait beaucoup aujourd'hui.
Une affaire de graphisme, justement, et d'illustration. Eric Clapton, condamné pour la pochette de son album culte, Leila.
Oui, le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné à verser 15 000 euros à la famille du peintre Emil Fransson, peintre danois, pour avoir, je cite, dénaturé son tableau. Le tableau qu'il avait utilisé sur la pochette de l'album Leila en 70, album mythique. Tableau qui avait été donné à Eric Clapton à l'été 70 par le propre fils du peintre, qui avait hébergé tout simplement Clapton et ses copains, qui l'ont ensuite utilisé pour illustrer donc Leila and Other Associated Love Songs, paru quelques mois plus tard, et ensuite peinture qui a été réutilisée à l'envi, notamment lors d'une édition collector, créant à partir de ce tableau des pop-up, autocollants et autres t-shirts à message.
Sans parler des mugs. Pff.
Merci Zoé, ben justement on parlera de musique et peut-être de la couverture du disque du jour avec vous à 19h50.
Une réaction de Michel Bouvet peut-être sur cette affaire de Leila, vous êtes notre invité S graphisme illustration.
Non, et puis d'autant qu'en plus on présente à la fête du graphisme une exposition qui s'appelle Graphisme, rock et cinéma, et donc évidemment moi j'ai été élevé, si j'ose dire, dans le culte des pochettes de disques, et cette pochette de Leila d'Eric Clapton, je la connais par cœur. Effectivement c'est troublant. Parce
Alors
que...
vous nous la décrivez avec votre jargon.
C'est une peinture qui est, j'ai envie de dire, c'est des formes assez molles, avec des contrastes entre des, c'est plutôt des couleurs assez claires, c'est assez pastel, c'est pas des couleurs très très fortes. Et c'est une peinture, c'est-à-dire que en fait, on peut pas véritablement la décrire. Elle est plutôt abstraite. Je crois que c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est un double album en plus. Et tout, effectivement mythique. Oui, c'est assez bizarre. Hein. C'est assez bizarre qu'il n'ait pas pris la précaution, en fait, de demander aux ayants droit et tout. Il a juste photographié, effectivement, la peinture dans son salon, ce qui est quand même un peu bizarre.
On reste dans la même thématique, mais on va changer de groupe.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Around here for long, long years, stole many a man's soul away. Yes, I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate.
Un son étrange, un son qu'on doit à Jean-Luc Godard. Nous sommes en 1968, One plus One. C'est un film qui consacre aux Rolling Stones en train de créer ce monument musical qui est Sympathy for the Devil. Et en même temps, il filme aussi l'escansion de poèmes révolutionnaires par les Black Panthers. Vous reproduisez dans le cadre de l'une des expositions de la fête du graphisme Michel Bouvet, donc vous le disiez, graphisme, rock et cinéma, l'affiche de One plus One. Donc on va le dire rapidement, il y a Jean-Luc Godard dessus, il y a les Stones, il y a aussi Hitler, Mao, Le Che, Marilyn et toute une sorte de bouillon contestataire qui déborde l'affiche en lettrage bleu et rouge. Quelle relation étroite entretiennent rock, graphisme et cinéma pour vous, Michel Bouvet?
Ben en fait, l'idée, on est parti d'ailleurs d'une page complètement blanche, puisqu'on s'est dit, le cinéma s'est inspiré du rock et a voulu traduire le rock. Et on s'est dit après, comment les graphistes ont-ils travaillé autour de cette relation entre le 7e art et puis le rock? Et cette affiche notamment, et on a d'ailleurs retrouvé son auteur, Corroy, qui est un Français qui a fait cette affiche. Et c'est intéressant parce que, en fait... je pense que cette exposition et surtout toutes ces affiches que l'on a regroupées grâce à la Cinémathèque française notamment et à la Médiathèque de Paris, à Dominique Besson qui est un collectionneur et galeriste, c'est que en fait les affiches comme les pochettes de disques, on parlait de Clapton tout à l'heure, en fait traduisent à la fois évidemment l'influence du rock sur le cinéma mais aussi la société. Et cette affiche dont vous parlez de One Plus One, qui est un film absolument incroyable de Godard, et cette rencontre improbable entre Jean-Luc Godard, le pape de la Nouvelle Vague et les Rolling Stones, montre évidemment cette répétition, si j'ose dire, puisqu'on la voit plusieurs fois, l'introduction de Sympathy for the Devil, et la manière dont le graphiste l'a reproduite. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, le film, effectivement, est constitué des répétitions des Stones à Londres et en même temps d'images d'archives qui racontent la contestation d'époque, hein, 67, 68, 69. Et là, le graphiste a convoqué, alors ça, c'est absolument improbable, effectivement, les deux figures majeures, c'est Jean-Luc Godard et Mick Jagger, et en dessous, ces personnages incroyables, puisque voisines, Le Che, Fidel Castro, Marx, Hitler, et puis Marilyn Monroe, etc., etc.
Que et... des hommes, dit Michel Audin.
Oui,
il y a
beaucoup.
Marilyn Monroe.
Non, il y a
mais...
Marilyn Monroe. Non, il doit y avoir Brigitte Bardot. Enfin, il y a
une femme. Il doit y avoir Nico, peut-être.
Il y a sans doute Nico du Velvet Underground, etc. Et donc c'est assez étonnant. Mais ce qu'on a essayé de montrer à travers ces affiches, en les regroupant et en essayant c'est montrer justement comment la musique, le rock notamment, a accompagné. D'abord, c'est la bande son de toutes les générations, et ensuite, c'est vraiment la révélation, on va dire, des conflits, de la manière dont les gens ont vécu à certaines époques.
C'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des les beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un soir tu as pu te reprendre, tout brisé, tout anéanti. Mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir, un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir.
Damia qui chante un souvenir. Alors c'est un écho, Michel Audin, à la petite musique de votre livre, Mademoiselle Haas, à ces années 1930. C'est aussi un disque qu'on entend dans le film de Jean Eustache, La maman et la putain. Vous avez fait le choix dans Mademoiselle Haas de présenter ni des mamans, ni des putains, mais d'autres femmes, et notamment des femmes au travail, on a pu en parler tout à l'heure. Et puis, à l'arrière-plan, puisque vous avez décidé de mettre ces femmes oubliées par l'histoire au premier plan de l'image, si je puis dire, vous, à l'arrière-plan, vous proposer un certain nombre d'événements historiques, la montée de la terreur, du fascisme, l'arrivée de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous indiquer justement ce que vous avez choisi de retenir à propos de cet arrière-plan historique, le 6 février 34, Violette Nozière, les grèves de 36, la mobilisation, la première rafle des Juifs, pourquoi ces choix?
Bon, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la vie des vrais gens, des gens ordinaires, se confrontent et confrontés à la grande histoire. Le livre commence pendant ce que je considère comme une émeute fasciste du 6 février 34 à Paris. Le livre se termine, pendant la première grande rafle de juifs à Paris le 20 août 1941. Ça peut être une période de terreur, mais au milieu, il y a cet intermède d'espoir, disons, du Front populaire et de joie. Bon, tout ceci apparaît dans le livre et forcément, ça influence la vie des personnages, la façon dont ils travaillent, etc. Donc, moi, je suis très, très sensible à la terreur de cette époque, à cette idée de montée des fascismes. Je pense pas qu'il soit trop tard pour y repenser.
Et pour y résister, comme disait
Brecht. Oui, résister, comme dit Madame Taubira.
Mais alors, vous avez le doigt posé, vous aviez à l'instant le doigt posé, Michel Audin, sur l'image qui orne la couverture de votre Mademoiselle Haas dans la collection L'Arbalète de Gallimard.
Voilà, puisqu'on parle d'image, donc c'est une photo qui a été faite par le photographe Willy Ronis, qui est un grand photographe qui a fait en particulier pas mal de photographies pendant les grèves de 36.
On le dit humaniste, il est peut-être féministe aussi.
Je sais pas. En tout cas, on a eu beaucoup de mal à trouver une photo de femme au travail, et ça ne date pas du tout des grèves de 36. C'est une photo qui a été faite en 1950, un moment où un industriel alsacien lui a demandé de venir faire des photos dans son usine. Et contrairement à ce que font tous les photographes, au lieu de photographier des machines, il s'est mis à photographier des ouvriers. Donc il y a une série de photos absolument magnifiques, et en particulier. Cette ouvrière avec ses bobines, la bobineuse. Et vraiment, c'est un grand bonheur de mettre sur la couverture du livre, qui est, comme toujours dans la collection L'Arbalète, un très joli livre. Enfin, extérieurement, je veux dire.
Vous avez plusieurs styles. C'est difficile, Michel Bouvet, d'identifier un Michel Bouvet lorsque vous tombez dessus dans la rue. Bon, bien sûr, pour les photographies, les rencontres photographiques d'Arles, on a, je crois, à peu près tous l'image en tête. Comment est-ce que vous variez donc énormément de styles? Comment est-ce qu'on peut dire quel est le style d'un affichiste? Comment est-ce qu'on l'affirme par rapport à la peinture, par exemple?
Sachant que le style, c'est l'homme. Un Buffon d'Ixit.
Certes, oui, mais en fait, je crois que la réponse, si vous voulez, c'est d'abord... alors, le style, c'est difficile à dire, parce que peut-être des gens vous diront « Oui, mais moi, je reconnais tout de suite le travail de Michel ou pas. » Alors, peut-être que certains ne le reconnaissent pas, d'autres le reconnaissent. Il y a d'abord les sujets qui sont très différents. Quand je travaille pour les rencontres d'Arles, où je décrypte complètement différemment la photographie, c'est un vrai projet, c'est un autre sujet. Quand je travaille pour des mises en scène, qui sont des mises en scène très exigeantes, par exemple pour les Gémeaux, et j'utilise la photographie noir et blanc, c'est parce que j'essaye de traduire, par exemple, les tragédies de Shakespeare, etc. quand je travaille pour d'autres clients, la Pépinière par exemple, qui fait un théâtre qui a une écriture très très particulière, très singulière, complètement décalée, j'essaye justement d'être différent aussi parce que d'une part, ce sont des lieux différents et que l'identité des lieux aussi est très importante parce que moi, je suis au service d'un lieu, je suis au service de gens qui m'ont confié la communication, en fait, de leur lieu, de leur événement. Et donc, au-delà de ma propre, on va dire, de mes propres envies.
Ou de votre œuvre, quoi.
Ou de mon œuvre, peu importe, enfin, peu importe comment on la nomme, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de marquer, en fait, les esprits, à la fois par la singularité du propos à chaque fois, parce que ce sont des choses différentes. Chaque édition des Rencontres d'Arles était différente, chaque pièce de théâtre est différente, et puis la communication du théâtre, lui, doit être immédiatement identifiable.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
C'est une image sonore, une photographie peut-être du renouvellement de la musique en France. Et c'est notre disque du jour, Zoé.
C'est très ambitieux ce que vous me dites là, Mathilde. Mais en tout cas, oui, alors c'est notre disque du jour, celui de la rédaction de Ping Pong, s'appelle Marabout, c'est le nouvel EP de Junior Re. Junior avec un E à la fin, formation créée autour de la très jolie Anna Jean, qui est donc une espèce de petite Françoise Hardy des années 2010, qu'on a croisé d'ailleurs avant au sein du duo folk Domingo. Donc ce nouvel EP s'appelle Marabout, et il confirme l'invention par ce groupe d'un espèce de genre d'électro-yéyé. Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme terme. Extrêmement bien produite, avec un charme moderno-désuet. On écoute tout de suite Mon Outre.
Mon Outre, elle s'ennuie avec.
Extrait de l'EP Marabout, c'est le dernier EP de Junior Re. Ce disque sort le 29 janvier, c'est donc demain, et ils seront en concert à l'Archipel à Paris pour fêter ça. Ensuite, en tournée à Brétigny-sur-Orge, à Marseille, etc., etc.
Merci Zoé, c'est pas vous qu'on retrouve demain pour le disque du jour, c'est Émilie Chaudet qui va nous proposer un journal de la culture, un disque du jour, ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même, certainement.
Ni tout à fait yéyé, ni tout à fait électro. C'est ping-pong. Et c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, Michel Audin, Michel Bouvet. Michel Audin, vous êtes donc l'auteur de Mademoiselle As, publié chez Gallimard. Quant à vous, Michel Bouvet, eh bien, vous avez contribué, vous êtes complice, vous êtes coupable de ces expositions à foison qu'on peut retrouver dans le cadre de la fête du graphisme en février à la Cité internationale des arts à Paris.
Le ping-pong est un geste radiophonique qui se fait à plusieurs. À la rédaction Aïssa Wendoy, Hélène Delis et Selena Terré, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Anthony Thomasson et Myriam Guillot.
Mais quid, Mathilde, de notre beau vendredi digital ?
demain. On ne casse pas l'internet, si vous connaissez la formule, mais on s'intéresse à ce qu'il nous fait. Sur France Culture, dès 6h du matin, l'antenne s'interroge sur nos vies numériques, et côté ping-pong, on aura les impacts créatifs en peinture, en littérature et en musique de ces nouveaux outils du numérique.
Mais tout de suite, poésie sur France Culture avec Denis Podalydès de la Comédie Française.